RCF. Saint-Exupéry disait « Le métier d'homme est difficile ». Nous pouvons sans hésitation paraphraser cette citation en disant « Le métier de parent est difficile ». En effet, combien de parents se retrouvent aujourd'hui dépassés par l'éducation de leurs enfants ? On parle de burn-out parental, d'enfants tyrans, de difficultés rencontrées par des mères élevant seuls leurs enfants. Pour tous ces parents confrontés à des difficultés relationnelles ou d'éducation avec leurs enfants, il existe en France 14 lieux au nom surprenant, les pâtes au beurre. Sophie Marinopoulos, bonjour. C'est vous qui avez créé ces lieux, le premier en 1999 à Nantes. Vous êtes psychanalyste, psychologue spécialisé dans les questions de l'enfance et de la famille, auteur de plusieurs ouvrages et de deux rapports ministériels, dont l'un sur l'importance des 1000 premiers jours de la vie d'un enfant. Alors Sophie Marinopoulos, qu'est-ce qui vous a conduit en 1999 à créer ce premier lieu d'écoute et d'accueil pour familles en difficulté, ce tout premier, les pâtes au beurre?
Oui, les pâtes au beurre, c'est vrai que c'est un endroit particulier. Alors, moi, je suis une soignante, je suis issue de la maternité, je travaillais longtemps en maternité, et puis dans ce qu'on appelle les centres médico-psychopédagogiques, qui sont les CMPP en France, dans lesquels les parents peuvent aller quand ils sont préoccupés dans le lien à leur enfant ou quand l'école leur fait des remarques, la crèche. Et dans ces lieux-là, nous avons des listes d'attente très importantes. Et au fil des années, je voyais ces parents qui venaient nous demander de les soutenir, de les aider, de les accompagner, de penser avec eux ce qui pouvait leur arriver. Et bien, je les voyais délaissés. Puisqu'on leur disait, revenez dans 8 mois, revenez dans 1 an.
Déjà dans les années 90, il y avait
déjà
des listes.
Déjà dans les années 90, nous avions des listes immenses qui se sont bien entendu aujourd'hui développées. Maintenant, on est à 18 mois, 2 ans dans certains territoires français. Donc c'est quand même très, très violent. Et cette violence-là, je ne la supportais plus. Il y a eu un moment où j'avais une difficulté entre le choix de mon métier, de ce que je voulais faire, être là, et ce que l'institution me permettait de faire. Et du coup, j'ai décidé de partir.
Parce que ces parents sont dans l'urgence de leur mal-être. C'est ça, ils sont un peu désarçonnés avec leurs enfants.
Oui, mais si vous voulez, quand vous commencez à ne pas comprendre votre enfant ou à être surpris de son comportement ou de le voir grandir, de ne pas comprendre comment il est devenu cet adolescent qui rejette tout ce que vous proposez. Oui, on a besoin d'être ensemble pour passer ces étapes de la parentalité, de l'être parent. Oui, c'est une histoire et une aventure incroyable, l'être parent. Et donc, je me suis dit, il faut changer la manière d'être là.
Mais alors justement, pourquoi réunir ces parents, les accueillir quand ils viennent? En fait, il suffit qu'ils viennent, ils n'ont pas besoin de prendre rendez-vous. Mais vous les accueillez dans une cuisine, d'où les pâtes au beurre, quoi.
D'où les pâtes au beurre.
Cette expression, les pâtes
au
beurre.
Oui, oui, oui. J'étais inspirée par une femme américaine, Selma Freiberg, qui était assistante sociale, qui est décédée depuis fort longtemps et qui travaillait dans le Carmonde américain, qui allait rencontrer les familles chez eux. Et c'était toujours une seule et unique pièce, la cuisine. Elle est devenue une grande psychanalyste et elle a écrit Psychothérapie dans la cuisine. Et je me suis dit, mais ça, c'est génial. La cuisine, mais c'est une pièce familière, c'est une pièce, tout le monde a une cuisine. Il y a des objets communs, il y a des objets qu'on reconnaît et ça facilite la rencontre. Et puis la cuisine, c'est un lieu de confidence.
Ça libère la parole plus que le divan du psychanalyste, puisque vous êtes psychanalyste
oui,
aussi.
Oui, alors la psychanalyste, c'est encore autre chose, même si je suis une psychanalyste au service du social. Et c'est aussi dire que nous, les psychanalystes, nous avons un rôle à jouer pour notre société et en particulier pour notre modernité. Je pense qu'on peut donner des éléments de compréhension sur ce qui se passe. Et puis, oui, c'est dire qu'on peut écouter dans un endroit facilitateur. On n'a pas forcément besoin d'un divan. Ça se passe dans la tête, tout ça. Moi, je sais exactement là où je suis quand je viens soutenir des parents et les aider. Il n'y a pas de confusion. Je reste une professionnelle, mais une professionnelle dans une relation d'aide. Et un autre point pour les pâtes au beurre, la solidarité était très importante. Donc, c'est un endroit qui reçoit les familles collectivement. Parce que vous avez dû remarquer qu'on a du mal à se supporter, à supporter nos différences. On a vite très peur de notre voisin. Et dans l'être parent, chacun est parent à sa façon. Donc, c'est l'occasion de s'écouter pour s'apprivoiser.
Est-ce que vous observez, depuis les années 90, que les parents sont de plus en plus perdus face à l'éducation de leurs enfants? Alors, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un sentiment vague, diffus, que beaucoup de personnes ont, qui se disent « mais finalement, c'est beaucoup plus difficile d'être parent aujourd'hui ».
Je pense qu'il faut qu'on ait le courage de poser des mots sur ce que nous vivons. C'est beaucoup plus difficile d'être un être humain aujourd'hui.
Et d'abord alors, un être humain.
Déjà un être humain. De naître à la vie aujourd'hui. Et alors de grandir en famille, oui, il y a un certain nombre de nouveaux éléments qui viennent complexifier la famille. On va parler du temps.
L'accélération.
L'accélération, c'est absolument insupportable pour les rythmes de la vie familiale, mais de les rythmes du grandir tout simplement, le rythme du vieillir, c'est-à-dire les cadences qui nous sont imposées, viennent détruire les rythmes qui nous constituent. Donc, par exemple, tout simplement ça, bien entendu, c'est un élément très important. Alors, on peut parler des écrans. Moi, personnellement, je pense que les écrans font aujourd'hui partie de nos vies, mais quand l'écran fait écran à la relation, oui, à ce moment-là, en effet, il y a vraiment beaucoup de choses à dire.
On creusera un peu cet aspect qui est vraiment important.
Et puis, dernière chose, peut-être aussi, il y a une dimension, comment on empêche aujourd'hui le parent de créer sa propre parentalité, d'être parent singulièrement. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de conseils qui sont donnés, il y a des dictats, on parle aussi de compétences. Donc, vous voyez, on est passé du côté de l'entreprise. C'est presque entrepreneurial de s'occuper d'une famille. Non, on n'apprend pas à être parent, ça s'éprouve.
À quelle différence faites-vous ? Ça ne s'apprend pas d'être parent. J'ai toujours cru qu'en fait, on apprenait en devenant parent. Et là, vous me dites... Non, on n'apprend pas à être parent. Non. Ça s'éprouve, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça s'éprouve, c'est-à-dire qu'être parent, c'est rencontrer un autre qu'on attendait, qu'on avait imaginé. Donc, bien sûr, il est plutôt sympathique, le bébé qu'on attend. Et puis, lui, il se charge d'être un enfant qui arrive. Donc, c'est tous les défis de la rencontre. C'est, on va éprouver des sentiments, des émotions, des peurs, des doutes. On ne va pas forcément immédiatement se comprendre. C'est un grand enjeu de l'être parent, qui d'ailleurs fait du mal à notre modernité, qui pense que ça s'apprend, et qu'on va poser des fiches explicatives aux parents, et puis voilà.
Oui, il suffit de lire quelques bons livres, oui. Et puis écouter toutes les injonctions des psys médiatiques,
par
exemple.
Voilà, il pleure, faites ceci, faites cela. Donc voilà, comme si c'était une recette. Non, ça s'éprouve, et les pâtes au beurre, c'est un lieu où on parle. Et c'est un lieu où on prend le temps de parler et où on prend le temps de déployer ce qui nous préoccupe. Vous savez, ça paraît tout simple de dire ça, mais c'est terriblement osé aujourd'hui de dire qu'il me faut du temps.
Vous écrivez, Sophie Marinopoulos, il n'existe pas un modèle parfait de parentalité, mais des parentalités. C'est-à-dire qu'il y a presque autant de parentalité que de parents.
Exactement, c'est toujours singulier. Lorsqu'un parent me demande comment est-ce qu'il doit faire, mais je ne sais pas comment il doit faire, tant que je ne le connais pas.
Ça n'aide pas beaucoup, ça, si vous lui dites ça.
Non, je ne sais pas. Et je pense que, heureusement que je ne sais pas, parce que ça me permet de l'écouter. Moi, je sais pour moi, pour mes enfants. Les exemples les plus tout simples, ça va vous paraître un peu bête. Est-ce que mon enfant, il n'arrête pas de sortir de table, je ne supporte pas, qu'est-ce que je dois faire ? Dites-moi si oui ou non il doit sortir de table. Je dis, j'en sais rien. C'est quoi le repas pour vous ? C'est un moment convivial, c'est un moment de rencontre, c'est un moment où on se parle, ou bien on est plus à l'américaine, on va ouvrir le frigo et chacun prend ce qu'il veut. Derrière, il y a des valeurs. C'est toujours, derrière l'être parent, il y a toujours, qu'est-ce que je veux moi ? À quoi je tiens ? Et on tient tous à des choses différentes. Alors après, on peut se retrouver, il peut y avoir une certaine forme de communauté. Mais pour autant, on est à chaque fois singulier.
Visage, Thierry Lyonnais.
Sophie Marinopoulos, on vient de vivre une période assez particulière avec le Covid et notamment avec le confinement de 2020. Est-ce que dans les 14 pâtes au beurre que vous avez créées, vous avez eu plus d'appels, plus de demandes qu'avant ?
Oui, on a eu énormément d'appels. C'est-à-dire que dès qu'on a appris le confinement, 2 jours après, nous avions mis en place une ligne téléphonique où l'ensemble des psychologues du réseau des Pâtes-au-Beurre se sont réunis pour faire des permanences de 9h à 22h, pour être là vraiment toute la journée. Il n'y avait pas de coupure, on était là en permanence. Et pour répondre aux parents, parce que justement, on en parlait tout à l'heure, moi, ce que j'avais prévu, ce qui est un petit peu le projet des Pâtes-au-Beurre, c'est d'être là. Être là, on a juste à pousser la porte. Et bien là, pendant le confinement, on ne pouvait pas pousser la porte, mais on pouvait faire le numéro de téléphone. Donc beaucoup de parents ont téléphoné. Certains ont pris avec beaucoup d'angoisse liées à des conflits qui montaient très très rapidement dans la famille et des difficultés à gérer la violence, violence verbale puis violence physique.
Dans le couple déjà, dans le puis couple, avec les enfants.
Dans les liens avec les enfants, des angoisses existentielles aussi, autour de la peur de mourir, la peur de sortir faire les courses parce que des fois qu'on attraperait le Covid, etc. Il y a eu une grande panique générale, il y a eu soudainement, on a pris conscience que nous étions mortels. On l'avait juste oublié. Et ça, ça a fait effraction psychiquement dans l'histoire de chacun, très différemment, bien sûr, en fonction de qui on est et notre rapport à la maladie, à la mort, à la vulnérabilité, puisqu'il était question de cette dimension-là. Mmh. Ah bon, je suis vulnérable, mais je vis dans une société où non. Je ne suis pas vulnérable, je suis compétent, je suis efficace. Non, je ne crains rien.
Je dois être compétent, je dois être efficace.
Je dois,
c'est
et
pas
puis
forcément,
ça
fait... parce que beaucoup mais de gens se rendent compte qu'ils ne le sont pas.
Oui, mais on finit par l'oublier. C'est comme le lien à l'autre. On a fini par oublier qu'on avait besoin de vivre ensemble, d'être ensemble, que vivre, c'est vivre avec. Ça n'existe pas de vivre seul.
Et au niveau du rapport enfant-parent, quelles étaient les problématiques qui surgissaient le plus à ce moment-là ?
Les problématiques de violence, les problématiques d'enfants qui manifestaient des désirs de suicide, des idées suicidaires très tôt, très jeunes, qui a fait beaucoup paniquer les parents. Et puis ensuite, les manifestations... de refus de la situation, les adolescents qui ne voulaient pas rester confinés, qui bousculaient la famille, qui sortaient, qui n'étaient pas forcément contrôlables. Du coup, les parents avaient peur pour leur enfant, ils avaient peur ensuite quand ils revenaient. Et puis après, il y avait aussi des questions habituelles autour de la scolarité. La scolarité a préoccupé beaucoup, beaucoup les parents.
Et beaucoup de parents qui se sont sentis complètement désarmés à devoir faire l'école à la maison. Ils se sont dit, mais comment font ? Là, ils ont admiré les instituteurs et les institutrices, notamment sur leur patience.
Oui, mais ça, c'était un sujet très intéressant. On en a beaucoup parlé avec les parents. Donc, bon, aussi, c'est ce nouveau défi de devenir tout d'un coup, non pas rester un parent, mais être un professeur à la maison avec ses propres enfants.
D'être parent, professeur et professionnel, parce qu'il faut continuer à travailler en télétravail. Et d'être les trois, quoi, encore.
Tout à fait, en plus, vous avez raison. Mais sur la question du rôle du professeur, les parents voulaient... bien faire. Ils voulaient être efficaces et compétents comme on leur avait expliqué, comme l'éducation nationale le leur a transmis. Ce qui fait qu'ils essayaient de suivre le programme et la manière dont il fallait apprendre aux enfants au lieu de s'autoriser à créer une forme nouvelle d'être un parent professeur. Et par exemple, cours d'anglais. Est-ce qu'on a besoin de passer par toute la technique qui a été proposée par l'éducation nationale ou est-ce qu'on peut jouer ? Tiens, on est enfermé, on ne peut pas sortir de la maison. Et si on jouait, tiens, toi, tu viens acheter mon appartement. Moi, je suis un Anglais. Voilà, vas-y, fais-moi visiter l'appartement en anglais.
Jouer, quoi. En fait, c'est...
Jouer. On peut inventer. C'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est s'autoriser à sortir des normes et de ce qu'on nous propose.
Alors, Sophie Marinopoulos, je sais que vous êtes très, très attentive aux évolutions de la société, sur tous les plans, puisque vous êtes cofondatrice de cette maison d'édition qui s'appelle Les Liens qui Libèrent, ce très beau nom, Les Liens qui Libèrent, et ce sont des publications sur des sujets incroyablement diversifiés, sociologie, écologie, économie, bref, je renvoie à ceux qui ne connaissent pas cette maison d'édition et à la diversité et à la qualité de vos intervenants. Donc vous êtes très sensible à cette transition dans laquelle nous vivons actuellement. C'est un mot qui vous est cher, cette transition. Mais je reviens à ce diktat, à ces diktats d'efficacité, de perfection. Nous sommes là-dedans, dans notre société occidentale, moderne. on vous martèle depuis l'enfance que vous devez être le meilleur, vous devez être le premier, vous devez être le plus compétent. Et ça, ça vous accompagne toute votre scolarité. Vous rentrez ensuite dans le monde de l'entreprise, vous devez continuer à être le meilleur. Toujours avec, derrière, le plus souvent, la comparaison, la compétitivité. Comment faire pour en sortir? Comment faire pour faire un pas de côté? Déjà à titre personnel, puis à titre de parent, pour pas rentrer là-dedans avec ses propres enfants. C'est possible, ça?
Oui, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Mais du coup, ça me renvoie justement à des propos d'Isabelle Stenger qui m'animent beaucoup, qui est une philosophe belge, et qui nous dit on a été exproprié notre capacité à penser ensemble. C'est le défi du 21e siècle. Alors comment on va récupérer notre capacité à penser?
À penser et à penser ensemble.
À penser et à penser ensemble, parce que les problèmes que nous vivons, ils nous concernent tous. Donc il ne suffit pas de rester dans son petit coin à penser, encore faut-il penser ensemble. Moi j'ai fait beaucoup d'interventions publiques et collectives pour justement animer des moments où on peut penser ensemble. Et elle nous dit, mais il va falloir à un moment ou à un autre se réapproprier le temps pour penser. On n'a pas le choix. Et il va falloir hétérogénéiser les raisons qu'un problème nous pose, c'est-à-dire se mettre ensemble. On ne va pas continuer à faire, par exemple, des colloques entre paysagistes ou entre psychanalystes ou entre philosophes. Non, il faut qu'on soit ensemble et qu'ensemble, on aborde ces questions-là. Moi, je parle beaucoup de culture du ralentissement. C'est ma façon à moi de répondre à ce défi, mais... Ça, c'est ma proposition. D'autres feront autre chose. Quand j'ai décidé de quitter mon institution, ça a été une réponse. J'ai dit, dorénavant, je refuse. D'autres sont peut-être parfaitement capables de refuser en restant dans l'institution. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on ne va pas tous choisir la même manière de faire. Mais me semble quand même aujourd'hui, il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça.
Mais comment faire pour ralentir, justement, dans un monde qui s'accélère?
Oui.
Parce que le monde s'accélère.
Avoir le courage de dire non, avoir le courage de dire non, ce soir je ne viendrai pas à votre réunion parce que 18h c'est l'heure où je vais chercher mon enfant et c'est précieux. Donc déjà, les indices de richesse ne vont pas être tout à fait les mêmes que votre entreprise.
Oui, mais dans ce cas-là, ma carrière va être menacée, mon évolution dans l'entreprise
Alors,
va être menacée.
J'ai passé ma vie à entendre qu'on allait me sortir de mon institution. J'en suis sortie toute seule. Je pense qu'il y a un moment aussi où il y a quelque chose qui se joue dans le fait qu'on se positionne. On dit là, je suis arrivée à mes limites. Vous savez que ça fait partie de la santé mentale de connaître ses limites. C'est-à-dire de savoir, ben non, ça je ne peux pas le faire. Là, je suis vulnérable. C'est-à-dire avoir une représentation de sa propre vulnérabilité, ça fait partie, bien entendu, de la santé, de ce qu'on appellerait la santé psychique, pour utiliser des grands mots.
Mais vous le savez, Sophie Marinopoulos, beaucoup de gens poussent la limite toujours plus loin. J'irais presque par nécessité jusqu'au burn-out. On n'a jamais autant parlé du burn-out dans les entreprises, mais aussi dans les familles. Vous, vous en parlez dans les familles, le nombre de familles qui sont en burn-out.
Énormément de familles sont en burn-out.
On n'en parle pas, c'est un peu un tabou.
D'hommes et de femmes sont en burn-out au travail. Pourquoi ? Ben parce qu'ils ont des idéaux, parce qu'ils veulent bien faire. Ce n'est pas parce que c'est des dépressifs de nature, pas du tout. Au contraire,
ce sont des gens consciencieux, qui veulent bien faire.
Très engagés, qui ont une haute opinion de leur profession ou une haute opinion du rôle du parent et qui vont se retrouver mis à mal par des exigences qui sont poussées toujours plus loin, qui ne s'arrêteront jamais. C'est pour ça que je dis le mot courage est très important. Et puis aussi d'essayer de développer une culture de la confiance, être en confiance les uns avec les autres et essayer de se soutenir. Parce que sinon, en effet, vous avez raison, l'accélération amène à l'accélération, ce qui jusqu'à présent nous a amené là où nous sommes aujourd'hui, que ce soit la crise climatique, la crise environnementale. Quand Baptiste Morisot nous dit « Mais non, attendez, c'est une crise de la sensibilité », nous ne savons plus regarder. Je viens de lire un ouvrage qui s'appelle « Quand la planète s'est tue ». Je crois que c'est Abraham, l'auteur. En fait, la planète s'est tue, c'est parce qu'on ne sait plus écouter la Terre. On ne sait plus, s'émerveiller. On ne sait plus regarder. On part au travail comme des fous. on ne prend pas le temps de se dire au revoir, on ne se prend pas le temps de se séparer correctement. Les enfants en souffrent énormément. C'est un grand sujet pour moi, de santé psychique, de santé relationnelle, de santé culturelle.
De savoir juste dire au revoir à l'enfant le matin, bonsoir, quand on se retrouve, heureux de te retrouver, juste prendre ces petits moments-là.
Oui, ça peut nous faire sourire, vous faire sourire, mais nos enfants d'aujourd'hui, nos bébés d'aujourd'hui, on donne comme conseil sanitaire aux parents, je vais prendre un exemple très simple, il faut qu'ils dorment le plus longtemps possible. Très bien. Donc je le lève à la dernière minute, me disent les parents. Du coup, l'enfant est réveillé à la dernière minute, il a le biberon dans la bouche, on lui change sa couche, on lui a déjà mis sa combinaison pour sortir dehors, et il est déjà assis dans son siège auto et il est déjà chez sa nourrice. Pas un mot sur l'importance pour un bébé qui vient de se réveiller de retrouver son parent, de s'assurer que c'est bien toujours le même parent, parce que pour un bébé, c'est une vraie question. Est-ce que vous êtes le même le lendemain matin? Vous avez oublié ça, hein, l'amnésie infantile a fait son œuvre. Mais lui, il se demande. Donc oui, on se retrouve, on prend du temps ensemble, on se parle un peu de vocalisation, un peu de musicalité de la langue dans la vie. Et puis ensuite, tu sais, on va se préparer, maman va partir au travail, papa va, etc.
On formule,
on se raconte une histoire, on se sépare, même si l'enfant n'est pas content de se séparer, on lui dit « mais moi j'aime bien aller travailler, je vais retrouver mes amis, mes collègues, ça me fait plaisir, j'aime travailler. Et je reviens te chercher tout à l'heure. » Vous voyez, ça vous paraît simple, je sais. Difficile, si difficile que ça, de refuser quelque chose et de dire à nos enfants « nous sommes là ». Pour toi, pour que tu puisses grandir en humanité, c'est-à-dire grandir avec moi qui suis à tes côtés.
Sophie Marinopoulos, nous poursuivons sur RCF cet échange autour de votre expérience de psychologue, de psychanalyste, d'experte, notamment auprès des parents qui ont des difficultés. Alors j'aimerais qu'on creuse un peu cette dimension de parents qui sont en difficulté aujourd'hui. Ça surprend, voire même ça choque des seniors. Vous savez, des gens qui ont 70 ans, qui ont élevé 4, 5 enfants. Ils se disent, mais je comprends pas, là, ce jeune couple, il a un enfant, il est débordé, ils sont avec des enfants qui semblent être des dictateurs. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé en quelques années? Vous pouvez nous donner quelques clés pour répondre à ces seniors, parce que je suis sûr que parmi nos auditeurs, il y a des grands-parents qui ont 70 ans et ou 80 et qui se disent, mais nous on a élevé 4-5 enfants, ça se passait bien. Là, ma belle-fille est débordée avec un enfant. Alors,
c'est des tablées intéressantes au Pâtebeurre. Il va falloir que vous veniez mettre votre micro chez nous, puisqu'en effet, vous avez raison, il y a des conflits générationnels autour de cette question-là. Et les grands-parents viennent au Pâtebeurre pour nous parler de leur enfant, devenu parent, qu'ils ne comprennent pas. Et en effet, il y a cette difficulté à se comprendre, mais parce qu'on ne veut pas voir que la vie a changé, les choses ont changé, qu'autrefois, nos parents ne vivaient pas, c'était des couples nucléaires, hein, les enfants étaient élevés à la maison par leur mère, papa était au travail, enfin, c'était du grand classique, aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Il faut aborder la question...
Les chiffres sont impressionnants, hein. J'ai été faire des recherches, là, les chiffres de l'INSEE, 4 millions d'enfants mineurs qui ne vivent plus avec leurs deux parents, qui vivent pour 83% avec leur mère et pour 11% tantôt chez le père, tantôt chez la mère. Mais 4 millions d'enfants mineurs et de plus en plus de petits enfants qui vivent avec des parents divorcés ou séparés.
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire, voilà, ça fait partie de la nouvelle manière de faire famille. Hein. C'est les transformations, elles sont là. Il ne s'agit pas de dire c'était mieux avant. Il s'agit encore une fois de dire maintenant nous divorçons, c'est autorisé. Les femmes travaillent, c'est formidable. On peut choisir quand on a un enfant, etc. Ce que ne comprennent pas les parents, parce qu'ils disent mais nous c'était des enfants tous les ans. Vous avez la pilule, moi qui ai commencé à travailler dans les années 80, juste après Simone Veil, les propos étaient très difficiles pour les femmes qui voulaient faire des interruptions volontaires de grossesse en disant bah attendez. Maintenant, vous avez la pilule, donc vous avez la chance, vous avez la chance de pouvoir avoir des enfants quand vous voulez. Et en plus, des fois, vous avez encore des enfants inattendus. Vous n'en étiez pas rendu compte ou bien vous ne vouliez pas être enceinte. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, il y a une dureté hein, dans les échanges parfois générationnels. Hein, il faut arriver à montrer que, ben oui, c'est pas parce qu'on va mettre de la rationalisation partout que la vie psychique n'existe pas.
Mais ce qui revient souvent, Sophie Marinopoulos, c'est autour de l'autorité. Cette génération-là est choquée par ce qu'ils appellent aller la dérive d'Olto. Il faut tout expliquer à un enfant. Il faut toujours écouter ses désirs. Nous, je me mets dans la peau de cette génération. Nous, on ne demandait pas aux enfants toujours de choisir. On était un peu plus strict au niveau de l'autorité.
Oui. Alors,
qu'est-ce qui s'est passé, encore une fois, par rapport à Dolto
hein? D'abord, Madame Dolto n'a jamais dit qu'il fallait tout dire et qu'il fallait parler systématiquement à l'enfant. Ça a été une dérive. D'ailleurs, toute la définition de Françoise Dolto est faite par des non-psys et pas par des psys, ce qui fait que ça explique peut-être cela. Toujours est-il que, très clairement, Madame Dolto rappelait l'importance de donner du sens dans la vie de nos enfants. Et donc, de pouvoir parler à nos enfants ou parler à un bébé, c'est le reconnaître comme un sujet. Si je lui parle, il n'est pas un objet. Je m'adresse à lui. Donc, je viens le nourrir de cette nourriture émotionnelle, affective, fantasmatique, imaginaire, etc., qui est aussi vitale que le lait que l'on va mettre dans le biberon.
Donc là, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, l'importance de verbaliser, la communication, d'expliquer.
Mais parce que ça fait partie de la rencontre sensible et sensorielle. C'est la première rencontre. On va retrouver Baptiste Morisot et sa crise de la sensibilité. Ensuite, nous sommes devenus une société de consommation, vous l'avez remarqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire plaisir à un enfant, c'est lui acheter. Voilà. Donc, les parents se mettent dans des situations absolument dingues. Moi, j'ai des parents qui viennent me voir. Vous allez voir que j'ai vraiment changé de métier, qui viennent me voir en me disant le brossage de dents le soir, impossible. C'est abominable. Toute la soirée est fichue. Je finis par redouter de rentrer à la maison parce que je devais devoir lui demander un geste simple d'aller se laver les dents.
Et pourquoi ?
Je demande à ce qu'on m'explique la scène parce que c'est très important ce que nous appelons la clinique du détail, c'est-à-dire de faire raconter à l'autre pour qu'il puisse sortir de l'émotion et se mettre à se représenter ce qu'il est en train de vivre. Donc, la scénette, c'est je lui mets son dentifrice à la menthe sur sa brosse à dents. Il fait une scène, il n'en veut pas. Alors je lui mets le dentifrice à la vanille parce qu'il dit qu'il préfère le dentifrice à la vanille. Et quand je lui ai mis le dentifrice à la vanille, eh bien il n'en veut pas, il veut le dentifrice à la fraise. Madame Marinopoulos, vous voyez bien que c'est insupportable, cet enfant est capricieux.
Alors, moi je dis,
ma réponse, c'est, il y a combien de dentifrices chez vous? Et là, éclat de rire, c'est stupéfaction, éclat de rire. Et on prend le temps de se moquer ensemble de nous-mêmes, de cette, en effet, comment on construit des scènes familiales où l'autorité du parent, nos autorités adultes, sont mises à mal, mais en fait, on a fait rentrer ce petit fléau à l'intérieur même de la maison. Peut-être qu'un dentifrice suffirait pour le soir, et puis quand il n'y a plus de menthe, eh ben on va acheter le dentifrice à la fraise. Ça vous paraît, encore une fois, vous voyez que j'ai changé de métier, hein, mais je ne vais pas aller lui donner d'autres conseils. Si vous voulez, c'est la rencontre de l'enfant qui ne veut pas se séparer. La séparation reste compliquée pour un enfant, donc il va trouver toutes les stratégies. Il en a des milliers, il sera toujours plus doué que nous. Et le parent qui n'arrive plus à supporter ces stratégies et qui, en effet, se sent mis à mal dans son autorité.
parce qu'il a peur de frustrer son enfant? Parce que vous dites, il faut toujours acheter, c'est pour faire plaisir, c'est des formes d'amour, de donner à l'enfant ce qu'il demande. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, en allant toujours dans son sens, finalement, d'avoir peur que cet enfant soit frustré s'il n'a pas ce qu'il veut?
Moi, je préfère que ce soit vous qui le disiez que moi, la psy, parce que si j'utilise un gros mot, je pense que c'est devenu le gros mot principal de notre société d'aujourd'hui, c'est le manque. Il ne faut pas manquer. Vous pensez que les adultes supportent de manquer, supportent de ne pas remplir leur emploi du temps, de travail, de loisirs, de plaisir, et ça passe toujours par des activités. L'ennui, moi j'ai écrit un ouvrage sur l'ennui, n'existe plus. Autrefois, nos parents, moi je suis d'une génération, hein, petite soixantaine, je disais à mes parents, je m'ennuie. Alors ça les effondrait pas, hein. Ils s'en fichaient complètement. De toute façon, le matin,
tu vas réfléchir, tu vas rêver.
Ils me disaient même pas ça. Ils s'en fichaient complètement. Et j'étais avec des parents très présents, très aimants. Mais l'ennui ne les effondrait pas. Aujourd'hui, un enfant qui dit à son parent qu'il s'ennuie, le parent, ça l'effondre. Il est un mauvais parent. Il ne sait pas occuper son enfant. C'est rentrer dans nos représentations collectives qu'il faut du plein, jamais du vide, toujours du plein. C'est rentrer dans tout.
Et ça épuise les enfants. Dès qu'ils ont du temps libre, le mercredi après-midi, il va falloir qu'ils fassent soit tennis, soit piano, soit telle ou telle activité. C'est une peur du vide, c'est une peur du manque.
On les met dans cette situation, en effet. C'est des enfants qui ne savent plus. Alors là, on va faire une petite caricature, vous m'en excuserez, on fait vite. Mais c'est des enfants qui ont du mal à jouer tout seuls. C'est des enfants qui ne savent pas occuper le temps vide, alors que le temps vide, bien sûr, c'est un moment où on développe son imaginaire, donc on développe bien entendu sa pensée, le langage, la capacité à appréhender l'espace, parce que qu'est-ce qu'on fait ? On fait des cabanes, on invente. À partir du moment où ça, c'est craint, c'est cette crainte, on parlait de la peur, vous voyez, cette peur par exemple, que l'enfant s'ennuie, que l'enfant n'est pas assez, que le voisin pense qu'on s'en occupe mal parce qu'on ne l'a pas voulu lui acheter ce qu'il avait demandé. Tout ça, ça joue dans la vie des parents d'aujourd'hui et ça n'existait pas il y a 40 ans.
Comment comprendre cette attitude de certains enfants qu'on appelle plus ou moins bien les enfants tyrans ? On a tous vu de temps en temps dans des parcs ou dans les magasins des enfants qui on a l'impression qu'ils commandent à leurs parents. Comment vous analysez-vous
ce qu'on appelle les enfants tyrans, c'est les enfants qui manquent de manquer. C'est ces enfants à qui, en effet, on a toujours gardé un cordon ombilical qui était un cordon matériel, c'est-à-dire à chaque fois qu'il avait un besoin, on le remplissait systématiquement. Et puis, alors on fait ça quand il est petit, puis à un moment, on trouve que quand même, il exagère, il veut toujours plus. Oui, puisque c'est le rapport au monde, c'est le rapport à l'autre, c'est le rapport à lui-même. Donc, il ne peut pas s'en défaire comme ça. D'ailleurs, on vient souvent nous amener ces enfants-là en consultation et on va jouer à manquer, ce qui les met dans des rages terribles. C'est-à-dire que nous, le thérapeute, on ne va peut-être pas toujours vouloir jouer au jeu dont il a envie.
Et comment il réagit ? Il doit être en colère.
Il est en rage.
Il ne supporte pas.
Il est furieux, il nous déteste. Il nous haïsse. On est là pour ça.
Et vous devez tenir bon.
Et ça. On tient. Vous savez, je dis souvent aux parents, droit dans nos bottes. Il faut qu'on soit droit dans nos bottes, surtout avec les adolescents. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent prendre appui sur nous. Il faut qu'ils sachent que c'est une période où, oui, on ne va pas être d'accord. Oui, on ne va pas vouloir la même chose. On ne va pas penser pareil. Bon, en plus, ils vont nous trouver quand même particulièrement nuls. Donc là, il faut être un petit peu s'aimer un tout petit peu. Parce que si, en plus, nos propres enfants commencent à nous attaquer, là, c'est terrifiant. Donc, droit dans les bottes, c'est ça. C'est-à-dire, rester celui sur lequel il peut prendre appui. C'est ce qu'attend un enfant.
Ça le rassure. C'est des repères.
C'est énorme pour lui. D'ailleurs, mais vous l'avez sûrement entendu dans la vie de tous les jours, il y a des parents viennent nous témoigner en disant « Non, mais c'est quand même incroyable parce qu'il adore sa maîtresse. Mais pourtant, elle est super sévère. Mais elle est juste. »
Ah. C'est ce que doit être un parent, quoi. C'est ça.
Poser des limites. Poser des limites, ça veut dire que je peux prendre appui. Si je ne pose pas de limites, le champ, il est sans limites. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui suis-je. Où est-ce que je suis? Qui suis-je?
C'est angoissant pour
qui
l'enfant.
Qui tient à moi?
C'est angoissant pour les enfants, ça.
Bien sûr. Ça, et on a connu toute cette période post-68, hein, qui a été une période difficile. Hein,
il est interdit d'interdire.
Il est interdit d'interdire. Et beaucoup de... Alors, ils ont aujourd'hui 70 ans, justement. Mmh. C'est cette génération des 70-75 qui témoigne, d'ailleurs, et c'est très intéressant, les entendre dire à quel point ça les a angoissés. Ou quand leurs parents sont devenus des copains.
Ça, c'est pas bon.
C'est
ça.
La même chose, c'est-à-dire que...
On le voit encore aujourd'hui, des parents qui ont le langage Jones, hein, comme on dit, ils veulent être copains-copains avec leurs ados, notamment.
Mais vous avez remarqué que les adolescents détestent ça. Ils détestent les adultes qui s'habillent en ados. Ils détestent les adultes qui parlent comme des ados. Ils sont totalement perdus. Ils ont véritablement besoin d'avoir ce modèle parental, même s'ils le trouvent ringard. Il faut accepter d'être ringard.
Oui, mais attendez, c'est pas facile pour les parents d'accepter que votre fils ou votre fille vous voit comme un ringard.
Ben oui.
Parce que là, il y a aussi cette dictate de la jeunesse, de la perfection dans notre société.
Mais qui vous a dit que c'était facile d'être parent? C'est bien pour ça qu'il y a des pâtes au beurre. C'est bien pour ça que quand je parle de solidarité, oui, il faut que nous soyons là. Quand, en effet, le parent se sent attaqué par son ado ou attaqué par son tout petit, quel que soit l'âge de son enfant, il n'y a pas de tranche d'âge. Au pâtes au beurre, on peut venir quel que soit l'âge de l'enfant. Et on a des parents qui viennent avec des enfants très âgés. Parce que, oui, on a besoin de prendre appui. De même que nos enfants ont besoin de prendre appui sur nous, les parents, nous, parents, nous avons besoin de prendre appui sur une société, eh bien, qui nous soutient. Alors, bien sûr, toutes les lois sociales et toutes les décisions de politique publique que nous attendons viennent soutenir le parent. Moi, j'étais dans la commission des 1000 jours, j'ai beaucoup travaillé avec mes collègues à l'augmentation du congé de paternité, parce que la mère puisse prendre appui sur son compagnon ou sa compagne, c'est très important. Être deux face à cet enfant, c'est très important. Là encore, c'est un appui. Donc, vous voyez, il y a des tas de mises en place de lois qui sont extrêmement vitales, nécessaires pour la vie des parents.
Sophie Marinopoulos, je vous ai averti quand on s'est rencontrés que j'allais vous poser des questions aussi personnelles et pas simplement par rapport à votre expérience de psychanalyste, de psychologue, d'aide aux parents en difficulté. Vous, comment vous avez été mère très active, parce que votre vie était très active quand vous aviez vos enfants en bas âge, et 4 enfants, dont des jumeaux.
Des jumeaux, oui. Oui, oui, c'est vrai, ça c'était la surprise, et surprise qui m'a fait paniquer, et qui évidemment, maintenant aujourd'hui, je me rends compte un peu de la richesse d'avoir des enfants. J'ai eu des enfants très jeunes. Je pense aussi que la jeunesse a fait qu'il y avait une telle naïveté.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 20 ans, donc... Très jeune, alors vous allez dire très jeune.
Oui, en par rapport cas, à notre société.
Et même ma génération. J'allais à la fac, j'ai mon premier enfant, j'allais à la fac. J'étais très aidée, par exemple. Très aidée par le groupe d'étudiants. Ils savaient que je ne pouvais pas toujours être présente, que j'avais fait des mauvaises nuits, que je n'avais pas trouvé de faire garder mon enfant. De temps en temps, je l'emmenais dans l'amphi, mais il y a des fois où c'était un peu dur. Donc voilà, on me prenait les cours, on me les amenait. Vous voyez cette entraide
encore
naturelle, c'était incroyable. incroyable, de solidarité. J'ai été tellement aidée quand j'avais besoin de sortir le soir, d'être une jeune fille aussi, de pas être qu'une mère. Donc, c'est sans doute ça aussi qui me touche chez les parents d'aujourd'hui. C'est cette difficulté qu'ils ont à être soutenus, cette solidarité qui s'est perdue avec les liens sociaux qui se sont défaits.
Notamment les grands-parents qui sont plus là.
Les grands-parents qui sont plus là. Moi, j'étais très aidée par les grands-parents, tant du côté maternel que paternel, mais parce que je vivais dans ma ville où j'ai été élevée, où j'ai grandi. Donc, en fait, j'avais vraiment tout un entourage, toute une communauté, amis, parents, grands-parents. Voilà, j'étais très soutenue.
Mmh. Et mais ça existe de moins en moins, cela.
Beaucoup
de couples ont dû bouger pour
Ils ont bougé pour leurs études, ils ont bougé pour leur travail, ils ont été là où il y avait du travail. Ils se sont souvent exilés. Et on voit bien l'effet que ça a sur la construction familiale. Aujourd'hui, une jeune femme qui est enceinte et qui n'a pas à proximité des frères, des sœurs, des parents, des amis. Enfin, c'est pas les personnes qui comptent, c'est pas forcément la famille proche, mais c'est vraiment très difficile. Et voilà, donc je me suis toujours estimée chanceuse.
Et vous avez appris, vous aussi, à être mère, très concrètement, disons... On éprouve, hein, je reprends votre mot, on éprouve d'être mère, d'être père. Vous aviez lu beaucoup, vous aviez énormément de théories.
À 20 ans, pas du tout.
Non, mais après, parce que vous n'avez pas eu que le premier enfant,
non,
vous en avez eu 4.
J'en ai eu 4 en 10 ans,
alors
je ne sais pas
si... Et après, comment vous avez géré toutes vos connaissances livresques sur la parentalité et l'éducation de vos propres enfants?
Alors, je pense que j'ai mixé mon histoire personnelle et mes connaissances, en effet, qui m'ont beaucoup aidée à plein de niveaux, de réaliser le sens de la parole, les besoins de la parole des enfants, comment les écouter, comment écouter un enfant. C'est très compliqué, ils ont une logique psychique complexe, ça m'a beaucoup appris. Mais je vous dis, mais aussi ma vie personnelle, moi j'étais pas bonne à l'école, j'avais beaucoup de mal à apprendre, j'étais vite dans les nuages, j'étais vite à côté, ça a été difficile la scolarité. Et j'ai rencontré quand même beaucoup d'instituteurs durs avec moi, qui m'enfonçait plutôt que de m'encourager. Ça m'est resté.
C'est génial d'entendre ça de votre bouche, alors que vous êtes devenue deux fois conseillère des ministres.
Vous avez eu
deux missions ministérielles. Donc, ça donne plein d'espoir. Peut-être aux parents qui nous écoutent, qui ont des enfants, qui ont des difficultés.
En tous les cas, quand je suis devenue maman, je me suis toujours dit, on en rit aujourd'hui parce qu'ils sont tous des adultes, on parle souvent de ces scènes quand les enfants, ça allait pas à l'école, qu'ils avaient des mauvaises notes, qu'ils étaient attaqués aussi dans leur... On allait à la pâtisserie et on s'achetait des gros gâteaux qu'on mangeait tous ensemble dans un plaisir en disant, bon, demain ça ira mieux. Voilà, je voulais être avec eux pour tous ces moments de la vie où on leur fait croire qu'ils n'ont pas de valeur. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup marqué dans mon existence d'enfant. Me faire croire que je n'avais pas de valeur parce que je n'arrivais pas à l'école, que j'avais des mauvaises notes. Et je voyais mon père et ma mère, surtout mon père, qui venait à tous les prix. On avait des prix à l'époque. Hein. Et dernière ou avant-dernière, Sophie Marinopoulos, le pauvre, lui, qui était excellent partout quand il était enfant. Voilà. Mais on a traversé ça ensemble avec mes parents, et j'ai voulu le traverser avec mes enfants de la même manière.
Vous avez vécu une expérience très forte aussi avec votre mari et vos 4 enfants. À l'époque, ils avaient, je crois, 12 ans, 8 ans et 20 mois pour les jumeaux.
Oui, c'est ça.
Vous avez pris une année sabbatique et vous avez fait le tour du monde.
Oui, on est parti, nous sommes partis.
Il nous faudrait une heure d'émission
pour parler de ce voyage, mais
vous a apporté, je dirais, d'essentiel en tant que mère? Et puis pour vos enfants?
Alors, ça a été après la naissance des jumeaux, donc de mes 2 derniers enfants. Ils avaient à peu près 1 an et j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je travaillais à plein temps, mon mari aussi. Je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir. Je ne les connaissais pas. Et alors, sans doute aussi, le fait d'être psy, de faire ce métier-là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Tu ne connais même pas tes enfants. Pas possible. Et c'est là où je dis, non, là, il faut arrêter, mais il faut arrêter pour se rencontrer. Donc, il faut quitter tout ce qu'on a, il faut tout lâcher et partir. Et c'est comme ça qu'est venue cette idée de partir faire le tour du monde, d'aller à la rencontre, en fait, de pays qu'on ne connaissait pas forcément. On a été très critiqués, très attaquée en disant mais c'est n'importe quoi, vous faites n'importe quoi, vous privez vos enfants de scolarité. Nos enfants sont revenus, ils étaient évidemment premiers de la classe parce que, bien sûr...
Ils avaient appris énormément de choses.
Énormément. Énormément.
Puis une ouverture sur la diversité culturelle.
Oui, et puis de se dire, ah, on va partir 12 mois, 14 mois, il va falloir prendre l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Dites-vous, vous partez 14 mois, on laisse tout, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'emmène?
Qu'est-ce que je mets dans mon sac à dos, quoi.
Sachant qu'on n'avait que des sacs à dos, et ce n'est pas les deux derniers à 20 mois qui allaient porter leur sac à dos.
Donc on s'allège, là.
Là, on s'allège sérieusement. Oui, ça a été une leçon de vie. Le pari a été réussi. On s'est rencontrés, on s'est reconnus, on a vécu des choses ensemble qui sont toujours aujourd'hui d'une grande valeur pour nous.
Ça a changé vraiment quelque chose dans la famille?
Oui.
Vraiment?
Oui, énormément. Oui, parce qu'ils vivent sans frontières dans leur tête. Et ça, c'est génial. J'aurais aimé, moi, enfant aussi, faire ça. Mmh. Et oui, c'est très important. Ouais.
Et vous avez vu aussi, vous, alors là, je m'adresse à la professionnelle de l'éducation, vous avez vu des manières différentes d'éduquer les enfants dans les pays. On n'élève pas de la même manière un enfant au Burkina Faso. Moi, je ne connais pas tout votre itinéraire, mais vous voyez ce que je veux dire. En Afrique, on n'élève pas les enfants de la même manière. En Chine, encore moins, avec l'enfant unique. Au Japon, non plus. Donc, est-ce que ça vous a ouvert les yeux sur cette différence des méthodes d'éducation?
Oui, et la question du village hein, qui élève un enfant, c'était très présent, ça m'a beaucoup marqué. Je pense que
c'est important, ça, c'est pas uniquement papa maman qui élève les enfants, c'est tout le village.
Je me souviens à Bali, j'avais été très très étonnée de retrouver régulièrement les petits dans les bras de dames, de messieurs que je connaissais pas du tout, qui en fait les avaient repérés. Moi, je connaissais pas les dangers. Il y a pas mal de serpents, il y a quand même des dangers que je ne connaissais pas en tant qu'européenne. Et du coup, je les voyais, ils les prenaient simplement, sobrement. Ils prenaient les enfants, ils s'en occupaient, ils les emmenaient se promener, leur chanter une chanson. Ben, j'ai jamais vu ça ici. Je pense que les pâtes au beurre, c'est aussi ça. J'ai réalisé qu'il fallait que nous soyons ensemble et la cuisine collective, hein, parce que je ne vais pas dans les cuisines des gens, je propose qu'ils viennent et qu'on soit ensemble, ce qui n'est pas la même chose du coup. Je pense que ça m'est resté, enfin voilà, je fais des liens en vous entendant, vous me poussez dans mes retranchements très personnels. Oui.
Visage, RCF.
Il nous faudrait plusieurs émissions, vraiment, parce que en préparant cet entretien, je me suis dit, mais c'est incroyable, tous les champs sur lesquels Sophie Marinopoulos a travaillé. Vous avez conseillé des ministères, vous avez parlé justement des 1000 jours, hein. C'est le président de la République qui vous a demandé.
Oui, qui nous ont nommés. Nous étions 18 experts, dont 3 internationaux. Et
sur l'importance de ces 1000 premiers jours. Voilà. Là aussi, alors, rapidement, la substantifique moelle de ce travail. Tout se joue les 1000 premiers jours?
Tout ne se joue pas, mais il y a véritablement des ressources internes que construisent les enfants dans ces premières années de leur vie, qui leur servent toute leur vie. Ils construisent leur sécurité interne, ils construisent l'amour qu'ils se portent, du coup ça les aide à donner, à recevoir. Enfin, il y a vraiment des choses importantes, mais bien sûr on peut le construire ensuite, mais c'est tellement bon d'être riche de toute cette nourriture humaine dès les premiers jours de vie, dès les premiers mois de la vie. Ça vous accompagne dans les crises de la vie, parce que de toute façon, il va y en avoir. On ne peut pas traverser une histoire de vie sans rencontrer des tristesses ou des drames ou des crises ou des défis. Donc, plus on est riche de rencontres et d'humanité, évidemment, mieux on va s'entendre.
Mais qu'est-ce que ça va faire pour la société qu'un groupe de psys dise au président de la République, Monsieur le Président, c'est très important ces 1000 jours. Qu'est-ce que ça va changer pour la société? Vous espérez que ça change?
Bien de prendre conscience que quand on prend soin de nos plus petits, on pourrait dire la même chose pour nos plus anciens. Quand on prend soin de nos plus petits, on prend soin de leurs parents, on prend soin de la société. On sait parfaitement que plus on met en place des politiques de soutien très précoce aux tout-petits et aux parents, d'abord on réduit les inégalités sociales de santé. Les épidémiologues nous ont montré que plus les pays étaient dans l'inégalité, moins on allait bien dans nos têtes. le stress, le suicide, les crises permanentes, personnelles, existentielles, avec tous les mots qui vont avec, les somatisations, les troubles du comportement, les troubles de l'humeur, etc. On sait très bien que c'est un enjeu majeur pour nos sociétés en transition. On en appelle là une société des liens, on parlait des liens qui libèrent, on en appelle à une société des liens. Prendre soin des liens, c'est vital, c'est premier, c'était tout le sens de mon rapport sur, au ministère de la Culture, en disant au ministre de la Culture, mais notre santé, elle est culturelle, c'est-à-dire c'est la santé de nos liens.
Alors là, vous me tendez une perche énorme, c'est celle des écrans, on va revenir aux écrans. Vous dites une société qui doit encore plus développer le lien, et aujourd'hui, que voit-on ? Un isolement face aux écrans, l'isolement des enfants face à leurs écrans, l'isolement des parents face à leurs écrans. Comment vous gérez ça, vous, psy, aujourd'hui, avec cette problématique que rencontrent tous les parents, que rencontre tout le monde sur les écrans?
Oui, alors moi, je trouve que de dire aux parents « c'est pas bien qu'ils regardent les écrans », c'est encore rajouter une couche de culpabilité. Ils en ont déjà tellement, ça fait déjà tellement partie du statut de parent que je préfère qu'on essaye de réfléchir ensemble à quelle place on peut mettre les écrans. Je vais vous donner encore un exemple très simple. J'habite dans le sud de la France, dans une petite ville qui s'appelle Uzès, où on m'a confié la responsabilité de penser à un parc qui était un petit peu délaissé, où il y avait très peu de choses dedans. Je l'ai pensé comme un lieu de promenade, un lieu où on améliorait le paysage naturel qui est déjà très beau, des jeux pour les enfants, des jeux pour les adultes, des jeux pour les adolescents. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que finalement, les gens commencent à aller dans ce lieu, se rencontrent. Les adolescents, ils sont toujours fourrés sur les balançoires. C'est des très grandes balançoires. En fait, c'est des balançoires pour les enfants infirmes moteurs cérébraux. Donc, c'est des balançoires très grandes, très larges, tout allongées. Eh bien, qui va dessus en plus de ces enfants-là ? Eh bien, les ados. Les ados, ils viennent se balancer, ils viennent rire ensemble, ils viennent s'amuser. Je leur ai mis des nids en hauteur. Enfin, je dis nous avons mis des nids en hauteur. On a pensé à plusieurs au niveau du conseil municipal, mais des nids en hauteur. Alors, ils vont jouer à grimper. Puis alors, ils vont peut-être aller regarder leur portable en haut.
Ce que j'allais dire, je les imagine bien regarder
déjà,
leurs écrans dans le nid.
Déjà, ils ont bougé, ils se sont rencontrés, ils ont parlé, ils ont ri, ils ont éprouvé des choses ensemble. Ils ont joué à essayer d'être agiles. Ça veut dire qu'ils ont une représentation de l'espace. Plus on joue avec son corps, on sera meilleur en mathématiques, parce que à partir du moment où un enfant joue à la représentation spatiale et spatio-temporelle, bien sûr que c'est une préparation.
Donc pour vous, une des réponses aux écrans, c'est l'urbanisme, c'est les jardins.
Tous ensemble, les paysagistes, les urbanistes, les politiques, les sociologues, les anthropologues, tous ensemble, nous devons penser les questions que nous pose le défi de notre modernité, Isabelle Stengers. Pensons ensemble, réapproprions-nous le temps pour penser. Les institutions qui aujourd'hui réduisent sans cesse les temps de rencontre des professionnels entre eux, non, il faut les élargir, il faut démultiplier les espaces où les gens peuvent se rencontrer, démultiplier la cafétéria, la salle de lecture, un espace musique. Bien sûr que c'est très important, introduire la culture à l'intérieur de nos lieux.
Mais quand je vous écoute, Sophie Marinopoulos, je vous entends parler du réel, des arbres, des camarades de jeu. Aujourd'hui, on développe de plus en plus le virtuel. Et vous le voyez arriver, le métaverse qui va faire que des jeunes vont être là avec leurs lunettes collées sur les yeux et rentrer dans des univers qu'ils vont imaginer, créer selon leur propre goût. Comment vous voyez arriver le métaverse ?
Mais c'est pour ça que je pense qu'on peut encore agir. Je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut pouvoir réagir, avoir le courage de réagir, le courage de rappeler que notre condition humaine, elle n'est pas sans condition. Sinon,
elle
n'est pas sans condition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si nous étions tout puissants, qu'on n'avait pas besoin des uns et des autres, et qu'on oublie complètement que notre condition native, elle est néothénique. Nous sommes des petits néothènes, nous naissons dépendants. Je ne peux pas me passer d'un autre que moi, j'en ai besoin pour naître à la vie, pour grandir, pour devenir parent, on en a parlé, pour vieillir. Regardez comment nous avons traité nos plus anciens pendant la crise du Covid. C'est une honte, la manière dont nous avons traité nos enfants pendant la crise du Covid. Est-ce que vous vous souvenez de ces dessins dans les cours d'école où ils avaient chacun un petit carré pour ne pas se contaminer? Comment on a pu faire ça à nos enfants? Et de dire, non, mais les enfants, vous savez, ils s'adaptent à tout. Quelle honte et quel manque de courage que de reconnaître, non, les enfants ne s'adaptent pas à tout. Ils emmagasinent des petits, des micro-tensions, anxiété, qui va un jour éclater, exploser, et qui fait qu'ils vont préférer la vie virtuelle. Voilà pourquoi ils vont préférer la vie virtuelle. Parce qu'elle, elle ne leur fera pas du mal. Donc nous devons être attentifs à ce que nous donnons à nos enfants et la manière dont nous leur donnons. Donc pour moi, ça a été un moment d'un grand drame. Ces familles qui n'ont pas pu dire au revoir à leurs anciens. Je ne sais pas comment on va s'en relever. Je ne sais pas. Et ces enfants qu'on a enfermés dans des cases, même symboliques, elles étaient inadmissibles. Voilà, c'est véritablement là, c'est un cri de la spécialiste de l'enfance, mais pas seulement, de la femme aussi, de la citoyenne qui dit, mais on est tombé sur la tête. C'est pas les dieux qui sont tombés sur la tête, c'est nous.
Sophie Marinopoulos, vous venez de publier avec Frank Steves un livre qui s'intitule À chacune ses 9 mois, devenir mère, d'un côté, puis on tourne le livre, et de l'autre côté, c'est à chacun ses 9 mois, devenir père. Là encore, il nous faudrait des heures pour parler de tout cela, comment devenir père et mère. Je pense que vous réaliserez une autre émission sur RCF uniquement sur ce livre. Mais moi, ma question est sur comment vous réagissez quand vous rencontrez aujourd'hui des jeunes couples qui vous disent « je ne veux pas devenir père ». Je ne veux pas devenir mère. Ce monde est tellement anxiogène. Réchauffement climatique, crise économique, guerre. Donc non, stop, je vais arrêter. Qu'est-ce que vous leur dites ?
J'accueille la parole déjà, cette parole-là, parce que ça vient dire quelque chose de la manière dont ils sont au monde aujourd'hui et de ce qu'on leur a fait croire qu'ils ne pouvaient plus être des acteurs, qu'ils ne pouvaient plus être actif dans ce monde. La désespérance est basée là-dessus. C'est-à-dire qu'on dit à nos jeunes, c'est fichu, c'est foutu. C'est de la désespérance. Un enfant ne peut pas grandir dès la naissance s'il ne peut pas éprouver d'abord, puis le penser, qu'il peut jouer un rôle dans notre monde et dans son environnement.
Il trouver un sens à cette vie.
Il faut qu'il joue un rôle et que ça prenne sens. Donc moi, j'aurais envie de l'entendre de déployer cette affaire-là, c'est-à-dire, je partirais de ça, hein, de ben, qu'est-ce qui vous fait penser que finalement, si vous devenez père, vous trahirez ou voilà, quelle idée vous en avez, de manière à ce que ce jeune en question puisse aussi sortir de ce qu'on lui a mis dans la tête et qu'il puisse aller voir est-ce que oui ou non, il a des ressources pour devenir père ou pour devenir mère. Où est-ce que ça se situe, cet impossible à être père ou à être mère? Peut-être que ça lui appartient en propre, et c'est tout à fait respectable et à respecter. Peut-être que ça vient d'ailleurs, et qu'il reviendra 6 mois après m'annoncer la grossesse de sa compagne. Je ne sais pas. Mais une fois encore, il faut être là.
Qu'est-ce qui vous donne le plus de joie dans votre vie, dans tout ce que vous faites, avec les pâtes au beurre, avec ces études ministérielles, avec ces écritures de livres? Sincèrement,
beaucoup de choses, beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de moments.
Il nous reste une minute alors, comment vous résumeriez?
Les bébés, mais ce sont mes enseignants, ils sont mais incroyables, mais après mes... Toutes ces personnes avec qui je travaille, vous avez évoqué mon collègue Frank Steve, mais tous mes collègues, tous ceux qui se sont engagés, tous ceux qui sont dans la cuisine, tous ceux qui croient en notre monde de demain. Il faut croire au monde de demain. Les bébés, là-dessus, ils sont en confiance.
Vous êtes optimiste, vous, pour l'avenir?
Oui.
Vous y croyez?
Bien sûr, il n'est pas trop tard. Hein.
Eh bien, merci beaucoup. J'étais ravi de vous rencontrer, Sophie Marinopoulos. Je renvoie, vous avez écrit plusieurs livres, mais je renvoie à tous ceux qui ont... Allez, des enfants ou des petits-enfants qui vont bientôt être père ou mère, ben je conseille ce livre, À chacun ses 9 mois, devenir père ou devenir mère, publié au Lien qui libère. Et puis tous les droits sont reversés au pâte au beurre.
Voilà.
Merci Sophie Marinopoulos.
Mille merci de votre accueil, merci beaucoup.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais,
Assistante de production, Laurence Bocard. Réalisation technique, Philippe Faure.